que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Domenico Scarlatti a composé 555 sonates, un nombre juste assez truculent pour s'attirer une sorte de fétichisme, parfois un brin suffisant. 555, ça alors, obélis donc. Une fois qu'on a comme ça recroquevillé la fascination sur elle-même pour en faire une friandise, que faire d'autre que deviser sur la pertinence des classements ou se lancer le défi d'en donner l'intégrale? Mais avec 555 sonates, on doit quand même pouvoir faire d'autres opérations que seulement dérouler les non-concordances entre les différents catalogue ou en faire la grande traversée. Déjà, il faudrait s'entendre sur l'ordre. Heureusement, cela est impossible. Et les sentiments peuvent ainsi reprendre le dessus. Le compositeur Colin Roche a noué un lien sentimental avec les sonates de Scarlatti et a décidé d'en faire lui-même une édition pour la maison Ona. Et pour que l'imagination et le désir l'emportent sur l'esprit de catalogue, Métaclassique et l'Abbaye de Royaumont ont invité Colin Roche à travailler un plein week-end avec la pianiste Violaine de Beuvert aux côtés de la romancière Hélène Gestern, qui ont aussi été reçus dans la bibliothèque musicale François Lang par Thomas Vernet pour découvrir quelques éditions rares des sonates de Scarlatti que François Lang avait collectionnées.
Le sol bémol, je sais pas, il est un peu classouille, non, là ?
Tu tiens ton sol bémol, hein ?
Eh ben, écoute, il me plaît bien. C'est pas ce qu'il y a écrit. Bon, c'est...
faut savoir si on est puriste ou pas, hein ?
Ah, oui, ben non, mais on va basculer du côté du puriste. Mais je vais quand même aller vérifier dans toutes les sources s'il ne serait pas glissé une petite erreur qui pourrait me donner un tout petit peu raison. C'est vrai que moi, je le trouve beau, ce sol bémol. J'ai du mal à m'en séparer. Je t'avoue. Je vais y réfléchir.
Mettra ça sur le compte d'une erreur.
Non, mais moi, je fais l'erreur perpétuelle. Voilà. On va dire que chaque fois que c'est une erreur. Mais je trouve que le seul Bécard, il...
Ah bah, c'est moi...
Et ce travail-là, il a quelque chose à voir avec l'amour.
Ce travail-là, il a certainement quelque chose à voir avec l'amour. Et puis Scarlatti, il a quelque chose à voir avec l'amour. Ça me paraît évident. Je rappelle un tout petit peu l'histoire quand même, c'est que de manière très schématique, mais je pense pas fausse, on peut considérer que Domenico Scarlatti n'a eu qu'une élève, qu'il a rencontrée quand elle avait 9 ans, qui est devenue reine, qu'il a suivie en tant que reine, mais qu'il a eu il était plus âgé qu'elle. Hein. Il meurt à 1 an d'écart. Il y a un lien certainement très fort qui les unit, qui évidemment ne peut pas être de l'amour au sens où on l'entend, parce que cet amour-là serait complètement impossible. Hein. On a quand même une reine et puis un serviteur à l'époque. Hein. Le compositeur n'est qu'un des serviteurs. Et au milieu de ces sonates qui sont des exercices, on en a parlé précédemment, se logent des sonates qui sont des véritables... billets d'humeur, des lettres, des aveux, des désespoirs, et sachant que c'est donc toujours adressé à la même personne, tout au long de sa vie. Moi, je ne peux pas y voir autre chose qu'un aveu amoureux, qu'une correspondance amoureuse. C'est-à-dire qu'il glisse sous ses doigts des lettres qu'il a envie de lui faire entendre, qu'il a envie d'entendre d'elle.
Parce qu'il peut y avoir un risque, précisément, s'il y a une charge sentimentale dans une pièce lente, par exemple, ça pourrait nous amener à languir et donc à re-romantiser, alors qu'on a pu voir que tout ce qui romantisait Scarlatti l'alourdissait. Enfin.
Ah, on peut y mettre une charge émotionnelle sans forcément mettre du pathos. Ça peut rester très simple. Et justement, l'écriture de Scarlatti est elle-même très simple. En tout cas, dans ces sonates-là, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu d'éléments. Donc, si on surcharge ça, on sera hors style, finalement. Donc, c'est ça toute la difficulté de l'interprétation, c'est d'y mettre cette charge émotionnelle, mais avec pas grand-chose, et en même temps que ça soit poignant, que ça soit. Ce qui est très difficile.
Mais comme quand j'ai compris que Haydn était un gros rigolo, quoi, et qu'il se plaignait de passer trop de temps à la campagne, qu'il s'amusait à cacher des choses dans des écrins de virtuosité, ou de, je trouvais, c'est quand j'ai compris que Haydn était drôle que je me suis mis à aimer Haydn, et c'est quand j'ai compris que Scarlatti était amoureux que j'ai aimé Scarlatti. Moi, je ne suis pas rentré dans les 555 sonates comme un corpus, donc il fallait que je fasse le tour. Je ne suis même pas rentré dans Scott Ross avec amour. J'ai trouvé ça froid la première fois parce que je n'avais pas les clés d'entrée qui m'étaient nécessaires. Et une fois que j'ai trouvé ce qui, moi, me faisait vibrer dans Scarlatti, alors après, toutes les ramifications se font et puis...
Un roman qui s'appelle 555, ce qui renvoie directement aux sonates de Scarlatti, évidemment, avec comme idée de mettre au centre non pas Scarlatti, mais une partition, puisque Scarlatti, on sait très peu de sa biographie, et plus je faisais des recherches, plus je me rendais compte qu'on ne savait rien. Et le projet n'était absolument pas d'essayer de faire une sorte de roman autour de la vie de Scarlatti dont on ne savait rien. Pour moi, ça n'avait aucune espèce d'intérêt. En revanche, ce qui m'intéressait davantage, c'était la petite fenêtre ouverte par cette multiplicité et cette discordance légère des copies qui autorisait à penser que peut-être il aurait pu se glisser une sonate dont il aurait pu être difficile de savoir si elle était véritable, puisque comme on n'a pas de sonate autographe, on ne connaît pas... En vrai, l'écriture de Scarlatti, donc une sonate qui pourrait très bien être de Scarlatti, mais qui pourrait n'être pas de lui, et dont on ne dispose pas d'éléments factuels pour l'identifier ou pas.
Il y a très peu d'éléments, en fait, dans la partition, donc ça nécessite vraiment une introspection, ça nécessite de jouer avec peu de choses, en fait, et de créer une atmosphère, on va dire, de créer des caractères avec pas grand-chose. Et ça, c'est très compliqué, instrumentalement parlant, surtout quand on ne peut pas tenir les notes comme un instrument à cordes, par exemple, d'arriver à... Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est... On est obligé d'avoir un certain recul, un certain niveau aussi, musicalement, pour arriver à...
« des pianistes, justement, parce que j'ai l'impression que du point de vue des clavecinistes, en tout cas ceux avec qui j'ai pu parler, m'ont expliqué que c'était impossible de jouer Scarlatti sans fausse note, même au plus haut niveau, je veux dire, si on veut vraiment l'interpréter, et que c'est pas tant un problème de capacité technique, de positionnement des doigts, mais ce que me disait un ami claveciniste, il me dit, il y a trop de notes, ça grille le cerveau. Il me disait, à un moment donné, c'est pas les mains qui ne suivent plus, c'est la tête, tellement la complexité est impressionnante. Il m'avait fait remarquer, chose que j'avais jamais remarquée, que des récitals Scarlatti au piano, il y en a. Des concertistes qui donnent des récitals Scarlatti au piano, il y en a. Des concertistes qui donnent des récitals Scarlatti intégralement au piano, il y en a très peu.
Effectivement, au piano, on peut varier les timbres, on peut varier la longueur de la tenue de la note aussi. Ce qu'on n'a pas du tout au clavecin, on peut varier l'attaque. Au clavecin, il y a une certaine résistance de la touche qui fait qu'on est obligé d'attaquer relativement rapidement, sinon la touche ne s'enfonce pas, le son ne se produit pas. Le son tient de manière très uniforme, quelle que soit la manière dont on attaque la note. C'est toujours le même timbre, alors on peut varier en fonction des registres, souvent il y a plusieurs claviers aussi, mais... On n'a pas tellement le choix, on peut juste jouer du coup sur le timing, sur d'autres paramètres, sur le fait de jouer ensemble les notes ou très légèrement décalées, ou voilà, ce genre de choses. Mais au piano, on a la pédale aussi, qui permet un legato et puis peut-être une conduite de la phrase qui est plus simple qu'au clavecin, où on est obligé de tout faire avec les doigts. Donc...
Beaucoup de ces sonates peuvent apparaître comme des exercices. La plupart de ces sonates, et d'ailleurs c'en était, et à l'intérieur de ces sonates, y glisse quelque chose. Et moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est comment à l'intérieur, ce que fait pas Czerny par exemple. Moi je peux vous dire que pour avoir, et Violaine tu me contredis si tu veux, mais on peut jouer les études de Czerny à l'endroit, à l'envers, en faisant le poirier et tout ça, on va jamais voir poindre la moindre chose derrière. Et chez Scarlatti, dans l'exercice les plus simples, se cache toujours, avec le prisme qu'est le clavecin, c'est-à-dire un trou de serrure, un élément d'humeur, un élément de contexte. Et ça, c'est assez fascinant. Mais c'est bien caché parfois. Et le piano révèle en grand ce qu'on voyait à travers un trou de serrure dans la version de clavecin, quoi. Et puis là, dans cette version-là, on a quand même un ornement qui, au piano, n'est pas simple. En plus, c'est une galère de commencer une pièce comme ça.
Il n'y a rien de plus délicat.
Donc, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de cet ornement. Le dos, là, comme ça, je le trouve très plat au piano. Et Violaine, elle a proposé quelque chose hier qui était vraiment bien comme ornement. C'est-à-dire quasiment... une note qui serait une appoggiature d'elle-même avec un ornement à suivre.
On va essayer de le réussir.
Ouais. Aussi bien que je l'ai dit, tu vois.
C'est ça.
Agora, Côte d'Azur.
Voilà, parfait. Et puis alors ensuite, nous on s'est posé la question, parce que sur les mesures 6, 7, 8, 9, 10... il y a un élément, la, sol, fa, qui revient trois fois. Bon, déjà, trois, c'est pas très Scarlatti. Hein. Donc, normalement, c'est deux. Mais bon, là, ça revient trois fois. Et sur l'édition, là, on a donc la, sol, fa, le premier fa, avec une appoggiature longue. Le deuxième, avec potentiellement une appoggiature, mais on n'est pas sûr, ce qui signifie certainement que dans un des manuscrits, il y avait une appoggiature la même, et pas dans un autre. Et la troisième fois qu'il apparaît, rien. Ce qui pose quand même un sacré problème, parce que si on le joue sans les appoggiatures, en se disant, donc on enlève les appoggiatures, le fa, il est perçant. Si on joue le fait qu'il y en a une, c'est sûr au début, peut-être une après, et une certainement pas en trois. Il faut créer une sorte de progression dans ces appoggiatures.
La question, c'est quand même savoir si l'appoggiature, elle est dedans ou dehors ce qui est dit. Ou alors, est-ce que c'est une façon d'épaissir un peu l'attaque, de créer une espèce de grain, ou est-ce que c'est quand même un élément du discours ?
Moi, on m'a appris le piano en me disant que c'était rien. Que, en gros, les petites notes, les petits zigouigoui, on verra plus tard. Donc, je pense que c'est nul. De cette façon de penser, mais surtout sur ces répertoires. Enfin, je veux dire, là, on travaille sur des répertoires, le répertoire baroque, où tout est dans ce qu'ils appellent l'expression. C'est l'ornement, l'appoggiature, tout ça, c'est par rapport au clavecin, ça fait partie des seules modalités de nuances possibles.
Ce sont des notes. Les notes qu'ils ont écrites comme ça sont les notes importantes. Parce que souvent, ça va créer une dissonance, justement. C'est ce qui va donner le côté expressif. Et
c'est presque insister dessus que de les mettre en appoggiature, alors.
Voilà, pour moi, c'est leur donner une importance particulière. C'est là que va se jouer l'expression, justement. Ou que ça peut basculer, ou que... Donc, au contraire, c'est tout, sauf insignifiant.
Donc c'est comme un grain de sel sur une tomate cerise. Ça paraît rien et ça change tout.
C'est beau. On ne désigne pas les ornements, on dit pas que c'est des accidents.
Non, il y a des notes accidentelles.
Mais on qualifie pas les ornements d'accidents des fois. C'est vraiment ce qui permet à la phrase de lui donner une phrase qui peut être, si on la dénude de ses ornements, être un peu plate.
Ouais.
C'est les ornements qui vont donner du relief.
Oui, ça fait briller,
du croquant, quoi.
Ouais, hein? Enfin, c'est le sel sur la tomate, mais moi je pense que cet ornement-là, sur ce début, il peut être joué de plein de manières. Il y a plein de façons de le faire.
Il faudrait pouvoir écouter une sonate de Scarlatti pour ce qu'elle est. Et ne pas écouter les autres. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait lire quatre romans à la suite de la même personne. On a besoin de ce temps où on s'en défait. Je dis un truc, c'est extrêmement banal malgré tout. Mais je trouve que sur des sonates aussi courtes, on a finalement l'habitude d'en coller un paquet. Il y a quelque chose, il n'en a pas besoin. Et ces sonates n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de leur corpus pour exister en tant qu'œuvre totale. La CR1, cette sonate monde là, je trouve que voilà, tu peux la jouer puis partir. Pourquoi un concert pourrait pas durer 6 minutes? En tout cas, on a de la matière pour déjà, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et voilà, je me suis rendu compte que la recherche musicologique, que la recherche artistique autour de Scarlatti faisait défaut pour moi à certains endroits. Et que l'étude musicologique, que je trouve souvent trop décorrélée de la réalité sociale, politique, de la qualité de compositeur à certaines périodes de l'histoire, et en regard bien sûr de la réalité sociale du compositeur aujourd'hui. La recherche musicologique est extrêmement frustrante, et qu'on peut faire de la recherche artistique autour de ces sujets-là, qui apporte peut-être plus de subjectivité, mais sur un sujet comme ça, qui est aussi creux en termes de faits, j'ai senti de la légitimité à aller à mon endroit par une recherche que je voulais à la fois sérieuse, poétique, un peu absurde, autour des questions de l'amour, qui me semblaient évidentes chez Scarlatti.
Pourquoi un peu absurde ? Il y a un endroit où ça devient hors de la raison ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à chercher les liens ou la relation amoureuse chez un homme dont on ne sait rien, il y a 300 ans, sur la base d'écrits musicologiques qui, on le voit petit à petit, n'a ni queue ni tête, et qu'on s'appuie pour ça simplement sur sa subjectivité, le passage par l'absurde, c'est-à-dire une espèce de recherche scientifique basée sur des éléments complètement subjectifs, par exemple les éléments de classification que j'ai utilisés pour arriver à une sorte de table des éléments de ces 24 sonates qui, tirées des 555, seraient une sorte de grand nuancier de couleurs et d'intensité amoureuse, en me basant sur les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, sur la carte du tendre, sur des échelles très subjectives de gens à qui j'ai fait écouter ces sonates et qui les ont classées par intensité amoureuse, sur l'échelle des tonalités, sur les humeurs des tonalités de l'époque, pour arriver à une classification. Je sais bien que c'est complètement absurde, mais ça n'en est pas moins un peu scientifique, subjectif. Voilà.
En vrai, on a des faits. Très peu, mais évident, c'est le nombre, parce qu'on n'écrit pas 555 pièces de musique pour une personne avec qui on n'a pas une profonde relation d'estime, de confiance, et effectivement d'amour, parce que c'est presque des pièces, si on considère que ce sont véritablement des exercices écrits pour la reine, c'est des pièces qui sont presque faites pour magnifier son talent, je veux dire, pour mettre en lumière l'interprète exceptionnelle qu'elle est. Il y a en plus l'intelligence, puisqu'on discute depuis ce matin de ce qui est à la fois la simplicité, mais l'extrême complexité de la musique de Scarlatti, en ce que chaque choix interprétatif va peser profondément sur la couleur de chaque pièce. Et puis il y a le temps, parce qu'ils sont restés liés pendant des décennies. Il lui a consacré plus de la moitié de sa vie d'adulte, il lui a consacré l'essentiel de sa vie de compositeur. Et dans son testament, elle lui sert une rente, elle lui fait un cadeau, elle s'assure du bien-être de ses filles. Donc jusque dans son testament, elle se soucie de lui, jusque par-delà sa propre mort. Donc il est évident qu'il y a un rapport dont on ne connaîtra sans doute jamais, dont on ne peut pas connaître la nature exacte, mais il y a forcément un rapport d'amour très intense entre ces deux-là. Et pour que ça ait résisté à autant de temps, il fallait que ce soit quelque chose de suprêmement puissant, ça c'est certain.
Mais l'hypothèse de l'aveu inavouable, c'est-à-dire que jamais rien n'a été comme acté amoureusement entre eux pour que le corpus des aveux aille jusqu'à 555.
Ah ben c'est une très belle hypothèse, certainement très plausible compte tenu du contexte social et historique de l'époque, parce qu'effectivement on ne peut pas imaginer dans une cour royale une liaison entre une reine et un de ses servants qui ne soit d'une des personnes qui travaille pour elle, un de ses courtisans qui ne soit révélé à un moment donné, qui ne provoque le scandale, la rupture, la chute. On pourrait aussi imaginer que lui-même, s'il en avait eu assez de Maria Barbara et assez de cette vie, était suffisamment talentueux pour aller se replacer dans une autre cour européenne. Il n'était pas obligé de rester à son service et de la suivre partout. Tout à fait, me semble-t-il, imaginable en fonction de l'époque, et puis peut-être aussi, et le terme d'érotique est bien choisi, puisque l'érotisme ne réside pas que dans le le fait de faire l'amour ou de toucher quelqu'un, il y a peut-être une forme d'érotisme suprême qui était de partager à deux et de la manière la plus intime ce qui était le cœur de leur vie, puisque visiblement, d'après Kirkpatrick, pour Maria Barbara, la musique c'était quelque chose de très important, puis ça a été aussi une vraie forme de réconfort et de consolation pour elle dans une vie de cours qui était pesante et absolument pas drôle, entourée de personnalités dont la santé mentale laissait à désirer, et c'était son espèce de refuge absolu. Donc on peut poser l'hypothèse qu'ils ont partagé l'un et l'autre ce qui leur était le plus consubstantiel et que ça peut créer un lien d'amour plus fort que n'importe quelle liaison.
Donc on est sous des voûtes cisterciennes beaucoup retravaillées, restaurées au 19e siècle, mais en tout cas dans une salle qui a un certain cachet et qui, depuis tout lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est dédiée à conserver une collection musicale. C'est vraiment le lieu que les Gouin, donc Henri Gouin et Isabelle Lang, propriétaires de Royaumont, je vais pas forcément refaire l'histoire de Royaumont depuis Saint-Louis jusqu'au Gouin, mais la famille Gouin avait acquis l'abbaye de Royaumont en 1905, après le départ des petites sœurs de la Charité de Bordeaux qui avaient fait de Royaumont un noviciat. Et la présence de ces partitions ici à Royaumont donc remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un moment où la famille a été très marquée par la disparition à Auschwitz de François Lang, donc le frère d'Isabelle et le beau-frère d'Henri Gouin. François Lang, pianiste qui a mené une carrière internationale à partir de la fin des années 20. Aujourd'hui, c'est une figure malheureusement oubliée du paysage musical. Mais c'était néanmoins une personnalité très remarquée du monde musical de l'entre-deux-guerres. C'est une personnalité mondaine aussi, c'est une belle figure de la vie mondaine de l'époque. C'est quelqu'un qui pose pour des magazines de mode, qui fait de la publicité pour des Rolls-Royce. C'est un dandy des années folles. C'est quelqu'un qui a un aspect comme ça assez frivole, mais qui avait néanmoins, au milieu de ses frivolités, un véritable discours artistique qu'il nourrit, ce discours d'une réflexion véritablement sur les sources musicales, puisque sa carrière, en parallèle de sa carrière, il est collectionneur de sources musicales. Il constitue véritablement une très très belle collection qui touche à tous les répertoires, avec néanmoins un intérêt particulier pour la musique ancienne, pour les sources anciennes. Alors je me suis amusé à essayer de reconstituer la carrière de François Lang à travers ses programmes, à travers les recensions de presse. Et on voit qu'il y a des passerelles, des liens entre ces deux corpus, à la fois ce qu'il joue en concert, sa bibliothèque de travail, et puis sa bibliothèque dite précieuse. Et c'est là qu'on en vient, notamment à Scarlatti, parce que le répertoire de clavier ancien, c'est quelque chose qui l'intéresse, qu'il joue en concert. Donc Scarlatti fait partie de ses programmes de concert. Donc il porte un intérêt à essayer de réunir des éditions de différentes époques. En tout cas, voilà, autour de nous, on a un peu, non pas pêle-mêle, mais dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, les partitions de Scarlatti anciennes de François Lang, avec des partitions qui remontent au XVIIIe siècle, quasiment contemporaines de Scarlatti, même contemporaines de Scarlatti, avec des raretés, parce que la partition que vous avez sous les yeux, là, celle-ci, c'est une édition française. Ce qui est assez rare pour les éditions, pour Scarlatti. Et alors, il y a un endroit où il fait des renvois. Voilà, ici, ça c'est de sa main, cette petite annotation au crayon. Il renvoie à son édition Boivin. Donc il étudie ses sources, il a un regard sans doute critique sur la partition. Il se nourrit de ses sources anciennes pour essayer d'adapter son propre discours sur propre approche de l'œuvre de Scarlatti. Naturellement, vous pouvez tourner les pages de ces partitions. Là aussi, il les annote. Il renvoie cette fameuse édition Boivin. Et j'ai retrouvé là deux exemplaires qui sont assez intéressants. dans la collection de travail de Scarlatti. Ça, c'est un exemplaire Peters de von Bülow. Où là, on voit vraiment que Scarlatti devient un compositeur romantique. où on renforce les accords, on met de la pédale, bien sûr, des indications, parfois des indications métronomiques. Et ce sont, là, il y a aussi cet exemplaire de Tausig, où il y a cette jolie petite mention. Voilà, avec, vous voyez, tripatouillé horriblement. Et un certain nombre de corrections en roue. Là, on développe les ornements sont développés, sont donnés en toutes notes, ce qui n'est sans doute pas le cas dans l'original.
Mais quand on cherche à être au plus fidèle de la source, pourquoi on se contente pas de prendre juste la plus ancienne ? Parce qu'il aurait pu s'en tenir à prendre la version contemporaine de Scarlatti et pas s'ennuyer à prendre et la Czerny et la Longo.
Oui, on pourrait, mais d'abord c'est un collectionneur. C'est un fin collectionneur. Donc il y a un
goût. Oui, donc il y a un goût à la multiplication des sources. Ouais.
Il sait qu'il y a eu plusieurs sources d'une même œuvre. Donc en bon collectionneur, il veut avoir. Il se donne comme mission, quelque sorte, de réunir ses sources. Après, c'est un pianiste, c'est pas un claveciniste, François Lorme. Donc je pense qu'il a aussi cette approche, enfin, ces éditions, celles de Czerny, elles témoignent du pianisme d'une époque. Il y a des articulations qui sont propres au piano.
Ce qui est drôle, c'est de voir à quel point, même de la part de quelqu'un qui a fait tous ses efforts pour collectionner tout ça, on comprend pas exactement la trajectoire éditoriale. Je m'étais déjà posé la question par rapport au choix de Czerny, par exemple, qui sont vraiment d'un parti pris total dans la collection qu'il fait lui, enfin dans son classement des pièces de Scarlatti. Mais ça donne vraiment envie de reprendre quasiment tout à zéro.
C'est quoi les choix que fait Czerny, enfin ?
Ben en fait, il en choisit assez peu qu'il classe dans sa collection d'œuvres de Scarlatti et comme tout pianiste, on a l'image d'un Czerny un peu austère, un peu sadique aussi. Et donc, c'est le rapport qu'on a en tant qu'interprète. Enfin, je veux dire, oui. Pas non, ce Czerny, on sait qu'on va passer un sale moment. Mais, et dans les choix des sonates de Scarlatti, moi, c'est un peu l'impression que ça me donne, c'est qu'il va vers la virtuosité, la difficulté technique, l'invention technique, puisqu'on sait que Scarlatti a beaucoup, beaucoup inventé pour le clavecin, finalement. Je suis très curieux de voir effectivement ce que Czerny a écrit.
Parce que donc il rajoute des notes hein, sur
la partition. Là déjà il y a des nuances. Donc,
oui. Donc il rajoute des nuances.
Des articulations qu'il n'y a pas chez Scarlatti.
Il rajoute des articulations, c'est-à-dire il met
des liaisons, des accents,
points, des accents.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est affolant. Et Violaine me montrait une édition sur laquelle tu as travaillé ce qu'on appelle maintenant la CR15.
C'est quoi la CR? Ah oui, c'est Colin Roche, hein, CR15. Voilà, c'est ça.
Elle l'a joué en concert pendant des années.
J'avais pris une édition qui me paraissait plutôt bonne, et puis je me suis rendu compte, grâce à la partition de Colin, qu'en fait, elle était pleine de fautes, de notes, des harmonies qui sont rajoutées, complétées. Donc j'ai dû reprendre de A à Z ce morceau que je pensais bien connaître, et changer totalement mon interprétation aussi, parce que du coup, ça change le rapport qu'on a face au morceau.
Si Czerny édite Scarlatti, c'est parce qu'aussi il a une sorte de déférence pour ce compositeur ancien. Et on...
Oui, c'est parce qu'on le consacre qu'on le met à jour. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le même... je pense que ça, c'est le même mouvement que... Quand Mendelssohn joue les Passions de Bach, et on fait qu'on change l'instrumentation, on se permet ce qui pour nous c'est des libertés ou c'est des ajouts superficiels, mais c'est parce qu'on considère que c'est une œuvre tellement importante qu'il faut lui donner tout le progrès moderne, enfin l'améliorer, en tout cas lui donner ce que l'époque fait de mieux.
Comme vous le savez peut-être, chez Scarlatti, en gros, il y a toujours deux itérations de la même chose. C'est un origami. C'est deux, un A, un B. Le A, le B est une sorte de variation du A, mais pas tout à fait. Et à l'intérieur de chaque A et de chaque B, ce sont des, chaque chose est énoncée deux fois.
Parce que il y a une tradition interprétative, je sais pas très bien d'où elle vient, qui fait que quand on réexpose A à l'identique, on le joue un peu moins fort pour mimer une forme d'écho.
Oui, dans chez Scarlatti.
Ouais, non, en général.
En général.
Pour la musique baroque, en tout cas.
Mais je pense pas que juste pour vaut, trouver c'est... une variété, en fait, qu'il n'y ait pas d'ennui entre guillemets quand l'auditeur écoute. Après, est-ce que c'est valable?
C'est juste un contraste.
Voilà, je pense que c'est juste pour éviter d'entendre deux fois strictement de la même manière et apporter toujours quelque chose de différent. Après, est-ce qu'il faut le faire comme ça? J'en suis pas sûr, mais. Je pense que c'est dans cette optique-là, en tout cas, que c'est fait de cette manière.
C'est drôle parce que ça n'intègre pas dans ce que tu dis le fait pour l'interprète de réexposer la même chose, qui pourra, de toute façon, c'est un peu philosophique, mais ne jamais être la même chose puisqu'on n'a pas endu, on a traversé quand même un chemin. Ouais. Et que même si tu retrouves ta route, tu ne la vis pas de la même façon.
On a toujours tendance à exagérer un petit peu les choses pour que les autres le reçoivent... pour être sûr que les autres le reçoivent différemment. Je pense qu'il y a une peur de systématisme et de répétition, même si, comme tu dis, ça ne peut pas être tout à fait pareil. Donc, on exagère un petit peu.
Parce que philosophiquement, c'est une chose de savoir qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'en est une autre de retourner quand même systématiquement
Dans
le même
fleuve. Oui, mais c'est la question du rythme. Dans ce que dit Violaine, c'est le retour du même et du différent, hein, je crois, la définition du rythme. Donc, on a à la fois le même... mais on a fondamentalement le différent, puisqu'aucune exécution, même à une minute d'intervalle, ne sera jamais la même, a fortiori si l'interprète décide d'introduire quelques variations de temps, d'intensité.
Oui, mais sur cette pente-là, il ne faudrait pas faire une réexposition, mais une ré-ré-exposition, enfin, mettre en boucle le A. Parce que j'entends qu'on le rejoue parce que comme ça, il est déjà connu et donc on ouvre la porte du plaisir de le réécouter. Mais si on a ouvert cette porte, alors on peut imaginer le réécouter à l'infini.
Oui, sauf qu'il y a une question de saturation qui arrive très rapidement aussi. Et puis peut-être une question de capacité de modulation ou d'écartement temporel. Or là, l'écartement temporel, on n'en a pas, puisqu'on est vraiment dans l'unité temporelle d'une pièce. On ne peut pas dire, on fait une pause dans la sonate, et puis on reprend dans 5 minutes, et puis la sonate, elle va se dérouler du début jusqu'à la fin.
Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans l'invention et de la forme sonate un peu plus tard. C'est finalement la réexposition, et bien... C'est assez étonnant parce que je dis souvent à mes élèves, quelque chose qui se passe une fois, ça se passe une fois. Quelque chose qui se passe deux fois au niveau sonore, on ne sait pas si c'est un accident ou déjà quelque chose qui invite notre mémoire. Si ça se passe trois fois, on est dans le rythme. Et donc, on travaille le temps. À partir de trois fois, on travaille le temps. Deux fois, potentiellement, on peut créer la surprise. Et donc, la forme sonate serait une sorte de façon de dire deux fois plus un. Et chez Scarlatti, il n'y a pas deux fois plus un, il y a deux fois.
Parce que dans la façon d'articuler le passage de la fin du premier A au début du deuxième A, il y a quelquefois une manière d'affirmer une fluidité qui fait qu'on voit à peine la couture, comme si finalement on avait eu un demi-A et l'autre demi-A qui arrive.
Oui, alors effectivement, chez Scarlatti, c'est clairement AA, BB, mais moi je ne le ressens pas tout à fait comme ça. B, je le vois en deux parties. Très fluide, hein, l'une enchaînée par rapport à l'autre, mais j'ai remarqué que souvent le début de B, ça pourrait correspondre à quelque part au développement dans la forme sonate, où il va introduire des nouveaux éléments, ça va moduler quasiment automatiquement, il peut partir très loin dans ses modulations, et après on retrouve des éléments de A dans d'autres tonalités, mais
à l'intérieur de B.
À l'intérieur de B, on retrouve presque textuellement des éléments de A. Donc pour moi, ça préfigure déjà de la forme sonate
C'est-à-dire
future.
Que le B est toujours un peu un A prime.
Le B est un A prime, mais avec une espèce de... pas de transition avant de retrouver les éléments de A prime, mais souvent ça dure 2 lignes, 3 lignes, où il va intégrer d'autres choses, il va moduler un peu comme on le fait dans un développement, dans une forme sonate.
Thank you.
Alors si je peux me permettre, je pense que cette forme AABB de Scarlatti, qui lui est relativement propre quand même, elle est très pauvre, la forme. Parce que le deuxième A, le deuxième B, absolument à l'identique, alors que chacun est lui-même formé de petit A, de petit B, de choses qui sont reprises de petits plis, c'est une forme hyper abstraite. Et je trouve qu'on est très très loin en fait de ces formes plus généreuses de la forme sonate ou de la fugue ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis, mais comment il va s'en sortir ?
Et je pense que c'est pour ça que la plupart des interprètes aujourd'hui, justement, ne répètent pas le B, ou parfois même ne répètent pas le A, pour éviter justement un ennui potentiel à ces répétitions.
Parce que donc l'origami, ça voudrait dire que Scarlatti fait 555 cocottes en papier différentes ou fait 555 animaux différents avec une feuille à 4.
Oui, enfin, ça peut être ça, en faisant toujours le même genre de pli en plus.
Ah oui, en faisant toujours le même genre de pli.
Oui.
Pourquoi B serait pas simplement un autre état, juste une version vieillie de A ?
Ah ben, c'est déjà le fait, c'est un fait.
Auquel cas, on n'a pas besoin de viser B, puisque forcément, notre A présent va devenir une forme d'A prime, qui peut toujours se faire passer pour un B.
Et ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, à cette histoire de temporalité, c'est que je pense souvent à ce... Ça va faire très très prétentieux, voyez, au moins un dimanche, de parler de Issa Kobayashi et de citer un haïku de Issa. Mais il perd sa fille et il écrit ce haïku que je trouve extraordinaire et qui dit le temps. Il dit, je le fais en français et approximatif, « Ici, tout est nuage, vapeur, silence. Cependant. » Et ce « cependant » que j'aime beaucoup, qui se dit « Sarinagara », je crois, en japonais, il dit... le fait qu'il n'y a plus de B possible. Il n'y a que A, on ne voit plus la lune. Il n'y a plus de quête, tout est arrêté. Cependant, c'est le fait que malgré tout, le temps est là et crée une dynamique qui permet à A de ne jamais être A, même sans B.
Parce que ceux qui vont sur la Lune et qui font le projet d'y habiter, en fait, ne veulent pas aller à B, ils veulent rétablir A à B. C'est comme s'ils voulaient refaire un scénario très terrestre.
C'est certain.
C'est ça. Parce que le passage de A à B dans une sonate de Scarlatti, on pourrait presque le qualifier d'une sorte d'ellipse. C'est-à-dire que A, 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 et si on saute et qu'on va 3 ans plus tard, voilà ce que sera devenu A. Et en fait, on l'appelle B pour les besoins de la circonstance du rapprochement, mais...
Oui, sachant qu'il l'a certainement jamais appelé B, lui.
En plus.
Pas nécessairement. Je ne suis pas sûre que ça puisse être une sorte d'ellipse. Moi, je verrais plutôt les choses par... J'ai du mal à voir les choses sur un axe qui soit horizontal ou vertical, parce que parler de A à B, ça suppose une sorte de linéarité. Or, moi, j'ai l'impression que tout n'est que sinuosité, justement. Il peut y avoir un vague horizon, quelque chose comme ça, mais en réalité, on est sans arrêt dans une sorte de dépliement, comme ça, une sorte d'ondoiement, avec des choses qui poussent, qui se développent, parfois de manière un petit peu, je ne dis pas indépendante de notre volonté, mais on ne maîtrise pas tout. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait dans un être humain un répertoire de choses musicales, de choses littéraires, un répertoire de mots, etc., qui est au fond relativement limité pour un individu ? Je ne suis pas sûre que notre répertoire soit potentiellement infini, j'en suis pas sûre du tout. Mais c'est peut-être ça une des clés de la discussion, c'est quels sont les éléments qui se touchent finalement ? Parce que, bon, caractériser intrinsèquement A ou caractériser intrinsèquement B, soit... Si on admet l'idée qu'on a deux éléments différents, il se passe quelque chose de plus que la coexistence des deux éléments. Déjà, on en parle entre A et A'. La contiguïté de A et A' va faire qu'on entend A' différemment. C'est-à-dire que si on entendait A le vendredi matin et qu'on entendait A' le dimanche après-midi suivant, ça ne fonctionnerait pas du tout. Là, on les entend dans un espace-temps extrêmement court, et c'est justement parce qu'ils se touchent qu'on va être capable de percevoir la variation dont parlait Violaine. Et lorsque B arrive, toujours dans cet espace de temps extrêmement court, on est encore dans la mémoire de A et de A'. Donc B vient se coudre, se relier, ou des fois vient percuter, hein, parce qu'on a l'impression qu'effectivement on est rentré dans quelque chose qui n'est pas tout à fait le même, parce qu'on est dans quelque chose où il y a à la fois beaucoup de différents, mais qui reste quand même lié par une sorte d'unité organique qui dépasse peut-être même, enfin qui existe dans le cadre de la sonate, mais qui existe peut-être dans un cadre supra ou méta, qui est le cadre de l'œuvre, qui va elle-même englober le cadre organique de la sonate. Donc peut-être que les choses ne sont pas si découpées que ça, et qu'elles sont en mouvement et en dialogue constant, et que c'est là que ça se passe précisément.
Du coup, je vais voir demain pour la caméra, le cadrage, et je vous enverrai un mail pour vous dire si c'est possible du coup avec ce micro-là.
Alors le plus étonnant, mais peut-être qu'on n'a pas vu celui-là, c'est que dans les premiers manuscrits, il y a quelque chose que je trouve très bien et que moi je vais employer avec mon éditeur quand on va republier les sonates, on s'est mis d'accord tout de suite là-dessus, ce sont des formats paysages.
Oui.
Ce sont des formats où en gros il y a les deux parties sur deux pages, la plupart du temps, quand ça tient. Mm-hmm. Et ça marche très bien. Et ensuite, on voit, donc là, ce que je vois, c'est 250 ans d'éditeurs qui les passent en format portrait avec des tournes de pages complètement improbables.
Oui, c'est comme si c'était un non-événement, la tourne de pages.
Oui, pendant longtemps, hein, quand même. Oui. Oui. Entre Longo, Kirkpatrick, les deux autres, Czerny, tu te dis, mais en fait, on n'a rien compris. Enfin, personne n'a rien compris. On ne sait pas quand ont été écrites ces sonates, on ne sait pas comment elles se succèdent, on ne sait pas... Pourquoi ? Enfin, je sais pas, j'en prends une au hasard. Hein. Celle qu'on appelle la Kirkpatrick 132, qui est la Longo 457, c'est-à-dire à peu près, c'est pas tout à fait au même endroit. P295, Czerny 77 et F91. C'est-à-dire qu'il y en a. Elle est sur tout le spectre possible, et c'est le cas de toutes les sonates. Moi, j'avais même fait un classement de classement moyen, selon les cinq, pour essayer de voir s'il se dégageait quelque chose. Mmh. Il ne se dégage rien. Et elles sont toutes autour de la 250e, quoi, globalement.
Si mes souvenirs sont bons, du vivant de Scarlatti, les sonates ont été publiées sur un laps de temps très court. Et d'ailleurs, il y a fort à parier qu'elles n'aient pas été publiées au fur et à mesure de la publication, parce que dans mon souvenir, c'est vraiment une poignée d'années où quasiment toute l'œuvre est copiée aux armes de la reine. Donc ce qu'il faudrait savoir, et ce qu'on ne saura jamais, c'est sur quels matériaux les copistes se sont appuyés pour produire cette édition aux armes de la reine. Où étaient les partitions originales, éventuellement autographes ou même copiées à la pièce comme ça? Comment ils les ont rassemblées? Est-ce que Scarlatti lui-même a eu son mot à dire là-dedans? Ou est-ce que ça a été un simple travail de consignation pour rendre hommage à Maria Barbara et que finalement, sur le plan musicologique, on se fichait un petit peu de... Est-ce qu'on avait à l'époque la même sensibilité, par exemple, à la genèse de l'œuvre, à la chronologie de l'œuvre qu'on a aujourd'hui? Ou est-ce qu'on trouvait que c'était tout à fait suffisant de les présenter dans un ordre, dans l'ordre où on les avait reçus, dans un ordre un petit peu différent? Ça, c'est les éléments qui nous manquent en vérité pour comprendre. Parce qu'une des hypothèses, ça pourrait être qu'il ait écrit son œuvre en quelques années seulement, dans une sorte de jaillissement formidable. Mais c'est peu plausible, puisqu'il a été le maître de musique de Maria Barbara durant toute sa vie. Il a composé pour elle durant toute sa vie. Donc, il n'a certainement pas attendu comme ça pendant 20 ans avant de produire quoi que ce soit. Et c'est assez symptomatique aussi de l'espèce de discrétion ou de retrait ou de pénombre dans la il s'est tenu toute sa vie, cet homme qui ne se produisait pas en public, qui faisait finalement assez peu parler de lui, puisqu'on le compare souvent à Farinelli, puisqu'ils ont fréquenté la même cour à une certaine époque. Et Farinelli qui était constamment dans la lumière, et Scarlatti qui était constamment dans la pénombre, et qui semblait d'ailleurs s'en accommoder très bien de cette pénombre-là. Donc est-ce qu'il y avait chez lui une forme d'indifférence finalement, je compose ces sonates-là et après moi le déluge, on ne sait pas.
Et en fait, c'est le bordel aussi loin qu'on remonte. Je regarde, parce que tout à l'heure je vous disais 132, 457, 295, mais si on va dans les manuscrits, les premiers manuscrits qui sont donc dans les grandes bibliothèques, Vienne, Parme, Münster, Venise, donc 15e volume à Venise, 35e sonate du 15e volume, 5e sonate du 5e volume à Parme, 54e sonate du 4e volume à Münster, 35e sonate du volume G à Vienne et 20e sonate de Fitzwilliam. C'est-à-dire que le spectre est encore plus large. Plus tu te rapproches, plus tu t'éloignes.
c'est plus tu te rapproches de l'origine. Oui, c'est ça.
Oui, oui.
Ça, c'est des versions dans les bibliothèques qui ont été copiées à la main,
oui.
Mais chaque fois par des copistes différents selon les pays.
Oui, après, on retrouve quand même les exercices. Enfin, le premier fascicule, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on en connaît l'ordre. Enfin, c'est pas le premier fascicule, c'est peut-être un best-of d'ailleurs.
Accord à côté sur.
La CR15, c'est la combien, par exemple?
Ah oui, j'ai pas le classement.
Alors, si tu veux, le K?
Oui.
Eh bien, 213. Aïe, 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 il va falloir que ça change.
Mais non, il faudrait le L, idéalement.
Alors, oui, mais le L, je l'ai pas pour moi.
Longo 108, naturellement, ça passe celui-là.
Non, parce que je
ça passe ce volume-là.
Donc, c'est-à-dire pour les auditeurs, voilà.
C'est 108.
La sonate qui a été classée numéro 213 par Kirkpatrick, 15 par Colin Roche, était donc 108 pour Longo.
Oui.
Donc nous allons la regarder.
Oui, oui.
Et par Tcherny?
Elle n'y est pas.
Parce que Tcherny, il en garde 25, non?
Oh, il en garde assez peu, un peu plus, hein, parce que je sais qu'il y en a une qui est 135, il me semble. Que...
Mais on peut parler d'un classement quand il y a en fait une sélection?
Oui.
D'accord.
Oui, parce que je pense qu'il a un angle, Czerny.
Oui. Donc tu ne l'as jamais vu? La sonate Longo?
Non. Non, 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 je l'ai pas.
Qu'est-ce qui serait pire avant qu'on la regarde?
Il y a des liaisons qu'il va mettre à des endroits qui vont m'énerver. Mais...
Je ne sais pas si c'est un signe, mais la page était cornée.
Ah.
Ah.
Ben, ça, c'est bien.
Donc l'angle a peut-être joué.
Peut-être.
Il aurait bien eu raison.
C'est celle-là ?
C'est ça. Tu vois ?
Salut. Fermi.
Aïe, 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 l'erreur.
Justement, regarder les fautes de notes par rapport à l'édition que j'avais, on se posait des questions sur certaines notes parce que les phrases se répètent globalement deux fois chez Scarlatti. Et là, elles se répétaient pas deux fois de la même manière avec exactement les mêmes notes au même endroit. Donc on se disait, est-ce que c'est une erreur d'édition? Est-ce que ça a été vraiment voulu comme ça? Auquel cas, ça change l'interprétation, évidemment. Et donc là, apparemment, il le répète deux fois de la même manière. Donc
là, il change une note parce que c'est son interprétation du style ou...
Ou alors il s'est dit que la deuxième fois c'était avec un mi, donc la première fois devait être avec un mi aussi. C'est vrai que ça paraît relativement logique dans la phrase musicale de mettre un mi, mais...
Mais c'est quand même une extrapolation.
Voilà, c'est pas écrit comme ça, en tout cas, à l'origine. Ah oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah là, il y a des notes qui sont rajoutées, des propositions.
Pour finir.
Oui, oui, bien sûr, mais elles y sont pas, quoi. Ben. Moi aussi, je peux en rajouter, mais simplement, là, par exemple, il y a une montée do, la, ré, la, mi, la, fa, la, ce qui paraît très très logique, sauf que Scarlatti, il écrit do, la, ré, la, do, la, fa, la, sont les premiers. Voilà.
Ouais.
Et en fait, ça teinte la chose un peu différemment. Et,
bien sûr,
oui. Et souvent, les pianistes, ils ont tendance à... Donc il y a toujours un item est quasiment toujours proposé deux fois, exactement de la même façon par Scarlatti. Et la première fois qu'on en a parlé, Violaine, elle jouait les deux fois différemment. Et moi, je lui ai dit, non. je suis pas absolument d'accord avec cette façon de faire. Et là, on voit que l'éditeur, donc, Longo, il uniformise harmoniquement les deux, en se disant, c'est deux fois la même séquence, donc je l'écris deux fois de la même façon, à peu près. Sauf que Scarlatti ne l'a pas écrit de la même façon. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de changer ta façon de le jouer si Scarlatti n'a pas écrit la même chose.
Sans le dire.
Sans le dire, ouais. Puis du coup, on voit qu'il joue avec des nuances différentes ici.
Oui.
En fait, ça rappelle beaucoup la problématique de la ponctuation. La sensibilité philologique contemporaine extrême, qui est celle d'aujourd'hui, n'était pas du tout celle qu'on pouvait avoir jusqu'au XVIIIe siècle. Et par exemple, la ponctuation est assumée jusqu'au XVIIIe siècle par les éditeurs, qui préfèrent même que les auteurs ne s'en mêlent pas, qui dit « écoutez, à chacun son métier, vous savez écrire, nous on sait ponctuer ». Et effectivement, les grands enjeux des éditions de la Pléiade, par exemple, c'est la ponctuation. Quand on refait l'édition d'un auteur du XVIIe siècle, voire du XVIIIe siècle, c'est comment on va reponctuer, ce qui peut avoir des incidences assez notables quand même sur le style, sur la compréhension du texte, sur...
Voire sur le sens,
tout à fait. Et il est communément admis qu'il y a une sorte de co-construction du sens qui est à la fois celle de l'auteur et de l'éditeur. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, cette tolérance-là, elle est moindre, elle disparaît. Et on va aller de plus en plus loin vers le texte original et on va essayer de rejeter toute l'information justement interprétative en marge. Et même dans l'édition sérieuse d'un texte médiéval, normalement, il y a l'édition du texte lui-même et il y a les différentes leçons et les différentes variantes. Il peut y en avoir 4 ou 5 dans chaque note. Et là, ça me semble être une espèce de la problématique des partitions. Être une espèce de mixte entre celle de la ponctuation, voire de l'adaptation en langue moderne, puisque par exemple, un texte de Montaigne ou de Rabelais, pendant très longtemps, il n'a pas été édité comme Montaigne ou Rabelais l'avaient écrit, il était édité dans un français modernisé, et on a encore maintenant des éditions qui sont modernisées. Et il me semble que les questions qu'on se pose, elles sont finalement un petit peu les mêmes. Parce que quand on fait une édition en français moderne, on va supprimer certains mots, mais on va en ajouter d'autres pour faire une cheville, pour faire une meilleure compréhension de la phrase, ou même pour faire une explication, une sorte de mini-exégèse du mot qui a vieilli. Alors il faut comparer ce qui est comparable, mais ce que j'entends à travers les discussions que vous avez sur la partition, c'est finalement la marge énorme de construction du sens musical et même de la façon dont les gens vont le jouer qui se déploie à travers les copies de partitions. Justement, l'énorme chemin entre ce que Violaine appelle lourd texte et qui serait au fond le texte original autographe du compositeur et puis les différentes versions qu'on a sous les yeux.